Deuxième moitié d'heure, et puis on va parler de musique et de cerveau, d'apprentissage par la musique. On reçoit Jonathan Bolduc, professeur titulaire à l'Université Laval, titulaire de la chaire de recherche du Canada en musique et apprentissage. Eh bien, bonjour, Jonathan.
Bonjour.
Alors, écoutez, ben, c'est ça, je vais vous voyez, je sais, on se connaît, mais quand même, je ne serais pas capable de... parce que vous êtes une sommité dans votre domaine et je ne pourrais pas dire tu, c'est impossible. Alors, je règle ça tout de suite.
C'est bon.
Alors, ben oui, c'est ça. Bon, vous êtes, évidemment, vous travaillez sur l'impact de la musique sur le développement cognitif, sur le cerveau, mais aussi sur l'apprentissage par la musique. Enfin, la musique... d'abord, vous avez, vous travaillez, vous êtes un enseignant, même au primaire, hein, vous enseignez à l'université, bien sûr, mais même au primaire, vous êtes intéressé par la musique depuis combien de temps? Ça a toujours fait partie de votre vie?
Oh, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je m'intéresse au sujet. Ça a commencé très tôt, au début de ma carrière, parce que j'ai rapidement vu avec mes élèves que les enfants qui avaient de la difficulté souvent à l'école avaient aussi des difficultés en musique et que la musique pouvait les aider à soutenir leur apprentissage. Ça développait leur mémoire, ça développait leur concentration. Puis je me suis beaucoup intéressé à savoir justement comment la musique pouvait soutenir les apprentissages des enfants. Donc, c'est ça qui m'a amené à m'intéresser à voir quelle place on pouvait faire à la musique à l'école et surtout comment on pouvait l'utiliser pour aider notamment les apprentissages en français ou en mathématiques.
Oui, c'est ça, parce que c'est une façon aussi en même temps de peut-être de capter leur attention davantage. Vous avez expérimenté tout ça.
Ah, totalement. C'est une façon qui est totalement innovatrice de voir comment la musique peut venir là, d'une certaine façon développer plein de capacités qu'on a besoin dans notre vie quotidienne, donc de travailler tout ce qui est en lien avec la concentration, les activités de travail, de développer aussi tout ce qui est en lien avec la mémoire, ses fonctions exécutives, être capable de s'organiser au quotidien, faire de la musique en bas âge, mais aussi à l'adolescence ou dans la vie adulte, ça donne des compétences qui sont essentielles à tous les humains qui profitent de cet art-là.
Oui, d'ailleurs, vous parliez de mémoire, mais qui ne se souvient pas de, par exemple, la musique qui est bien présente souvent dans nos vies et la mémoire, on se souvient souvent de où on était, à quel moment, la musique qui jouait. C'est fou, là, il y a vraiment un lien profond, là. Et d'ailleurs, vous êtes souvent appelé par les médias, notamment pour commenter cette chose-là, l'importance de la musique sur le cerveau. Et puis, vous avez participé justement dans des documentaires. Et puis, je pense à un très beau film aussi, ça m'a rappelé des souvenirs, là, Comme une vague, qui a été produit par Jean-Marc Vallée, le cinéaste bien connu au Québec. Alors, c'est ça, c'était un très beau film dans lequel on parlait aussi de la musique et le cerveau.
Ben oui, on voyait aussi dans ce film-là, aussi dans toute la musique, dans son apogée, autant auprès des nouveaux-nés jusqu'aux personnes qui sont atteintes de démence d'Alzheimer, entre autres, de voir que la musique, c'est quelque chose qui progresse tout au long de la vie. C'est une activité, en fait, qui nous permet, en fait, de s'épanouir autant chez les très, très jeunes enfants. On sait que faire de la musique avec les poupons, c'est une façon de développer le lien social, mais on sait aussi que de le travailler avec des personnes sont dans des situations plus de vulnérabilité, ça permet justement d'aller recréer des liens sociaux aussi avec eux. Donc, la musique, c'est une espèce de fil rouge qui nous conduit tout au long de la vie, mais qui nous permet justement de développer tellement d'habiletés, tellement de sensations, tellement de sentiments, qui fait en sorte que c'est vraiment un art qui est très puissant.
La musique, c'est un vecteur de bonheur, mais aussi d'épanouissement et d'accomplissement.
Oui, totalement.
Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui jouent de la musique et qui, à travers la musique, vont chercher une forme de bonheur.
Oui, et ça leur permet justement de s'épanouir. Moi, j'ai la chance de le vivre comme enseignant au primaire, hein, dans une école avec des élèves en situation de handicap.
Okay.
Ça leur permet aussi à ces enfants-là de faire jaillir tout leur potentiel. Hein. Mm-hmm. Souvent, ces enfants-là n'ont pas nécessairement la possibilité de participer à des activités sportives ou des activités autres. Faire de la musique, ça leur permet de s'exprimer, de faire reconnaître leur talent. Et c'est tellement un élément important sur l'estime de soi. Et la musique, ça vient vraiment rejoindre profondément ces enfants-là qui en ressentent vraiment, vraiment une très, très grande fierté.
Oui, parce que vous êtes spécialiste en musique à l'École oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds. Et puis d'ailleurs, il y a eu de belles choses qui se sont réalisées à cette école. Et je pense la création d'instruments de glace...
Oui, cette année, on a eu la chance avec ma collègue Christine Lavallière, qui est une musicienne éducatrice aussi formidable, avec qui on a créé un orchestre de glace inspiré de travaux qui ont été réalisés en Finlande. L'objectif, c'était de permettre à nos élèves qui ont des problèmes d'audition d'avoir un orchestre qui vient stimuler justement tous les aspects auditifs avec des sons cristallins, donc en collaboration avec le Carnaval de Québec et un organisme communautaire qui s'appelle UQ Atelier au Saguenay. On a fait à l'école, dans la cour d'école, un orchestre complètement composé d'instruments de glace, de xylophone, de djembé, d'instruments de percussion qui permettaient aux enfants de faire de la musique avec des instruments de glace et de développer leur potentiel. C'était unique au Québec. Et surtout pour ces élèves-là, c'était une façon aussi de démontrer qu'ils étaient capables de réaliser de grandes choses malgré des contraintes là, d'audition et de langage.
Oui, c'est ça. Donc, c'était unique. Alors, bon, j'imagine que l'expérience va se refaire, mais en fait, vous qui êtes appelé aussi à l'étranger, parce que ça, il faut le dire, hein, vous êtes un chercheur, donc on fait appel, bien sûr, à vous. D'ailleurs, vous allez partir là prochainement pour à peu près un an. Vous êtes, vous avez évidemment fait doctorat, post-doc et tout, et puis ça se poursuit, alors, du côté de l'Europe. Alors, j'imagine que toutes ces expériences-là aussi, vous allez les partager avec des collègues là-bas.
Oui, totalement. Puis c'est une façon aussi d'aller mettre nos connaissances à jour, d'échanger nos savoirs, de participer justement au développement des connaissances. C'est une façon super importante. Vous savez, le domaine de la psychologie de la musique et l'éducation musicale, on est encore quand même au tout début du savoir là-dedans. Il reste encore beaucoup, beaucoup de choses à comprendre sur le cerveau musical, notamment chez les jeunes enfants. C'est le moyen le plus important, justement, d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour voir comment, pour mieux comprendre aussi comment la musique peut accompagner les enfants au quotidien. Donc, c'est un domaine totalement fascinant.
Alors, vous allez avoir beaucoup de plaisir au cours de la prochaine année, j'imagine. J'espère que vous allez pouvoir profiter quand même aussi de l'Europe à travers tout ça, parce que vous allez en France, je pense, hein?
Oui, totalement. Donc, j'espère bien en profiter aussi.
Oui, bien
le
sûr, avec
premier,
la petite famille.
Bien sûr, le travail, mais on essaie toujours de joindre l'utile à l'agréable.
Exactement. Moi, je vous ai connu aussi dans le projet MAZAM. Alors, on s'était rencontrés à la fête de la musique de Tremblant. Vous avez une collaboration avec Angèle Dubot et son mari, là. Alors, bon, puis qui ont participé aussi à ce projet-là. Justement, c'était très ludique, là.
Oui, totalement. MAZAM a été une application qui a eu beaucoup de succès. MAZAM a été élue pendant les trois dernières années comme meilleure application musicale pour la famille aux États-Unis. C'est une application qui vise notamment à éveiller les enfants à la musique classique, mais aussi à développer toutes les différentes compétences qui sont liées aux fonctions exécutives, dont être capable de développer la mémoire de travail, l'inhibition du comportement, l'attention chez les enfants. Donc, c'est une application qu'on retrouve sur toutes les plateformes où on peut télécharger, qui permet justement d'aller voir et de surtout de travailler avec de la musique qui est unique et des enregistrements qui sont d'une très grande qualité. Ça vient du catalogue d'Analecta.
Analecta, exactement, oui.
Exactement. Donc, une application qui est très utile pour tous les parents, les grands-parents et les familles qui voudraient donner une initiation musicale, un éveil musical aux enfants qui sont âgés environ de 3 à 6 ans.
Oui, puis on parle principalement de musique classique.
Totalement, et avec on retrouve différents styles, hein, en partant de la musique de Renaissance jusqu'à la musique contemporaine. Le but, c'est vraiment d'éveiller les enfants à différents styles musicaux, mais qui apprennent aussi à reconnaître plein d'éléments qui sont essentiels dans une culture musicale, les rythmes, les hauteurs de son, les timbres, les musiques consonantes, dissonantes. Donc, ça donne vraiment un très, très grand éventail de connaissances musicales aux enfants, mais d'une façon ludique par le jeu, essentiellement.
C'est ça. Et donc, l'application est toujours disponible. Hein? C'est, donc, les exercices, les activités, les ateliers sont toujours là.
Toujours disponible sur les plateformes, mais c'est aussi offert dans le réseau des bibliothèques du Québec.
Donc, ah, merveilleux, aller. Merveilleux. Oui. Alors, évidemment, bon, il y a plein d'autres projets sur lesquels vous travaillez, mais enfin, oui, mais Nathalie avait une autre question, je pense.
Non, j'avais un commentaire parce que je sais que sur la chaîne Ami Télé. Ouais, Martin Deschamps a une émission justement, il rencontre des experts qui étudient l'impact de la musique sur le cerveau.
Et oui, et Jonathan était dans l'émission aussi.
Exactement, c'est ça que je voulais mentionner, aller voir ce documentaire-là sur la chaîne qui est disponible depuis le 26 juin.
Oui, c'est très beau et puis c'était tellement intéressant de faire ce reportage-là, de voir effectivement que ce qui m'a beaucoup touché dans ce reportage-là, c'est de voir que la musique, elle est partout, peu importe en fait la condition des personnes. Mm-hmm. Ça vient donner un message qui est très significateur de dire que peu importe qui on est, peu importe notre condition, bien, la musique va un peu nous accompagner dans notre quotidien.
Et Jonathan, vous dirigez le laboratoire Muse Alpha. Alors là, évidemment, c'est plus votre, là, c'est plus le chercheur, là. Puis après ça, vous allez vérifier sur le terrain comme, en tant qu'enseignant, mais j'imagine. Mm-hmm. Mais donc, Muse Alpha, alors, qui parle des effets de la musique, bien sûr, sur le développement des enfants. Alors concrètement, là, ben, qu'est-ce qui se passe dans ce laboratoire?
Plein de choses. Le laboratoire, ça vise essentiellement à mener des travaux qui visent à voir quel est l'impact de la musique à l'école. Donc, on s'intéresse généralement à des enfants d'âge préscolaire primaire, donc en classe à peu près de 5 ans jusqu'à 12 ans. Et on examine, on étudie dans notre laboratoire quel est l'impact de la musique sur les apprentissages en français, et notamment en mathématiques. On sait que faire de la musique, ça peut développer plein de compétences qui peuvent aller travailler justement sur la retention des mots, des formules mathématiques. La prémisse de ce laboratoire-là est venue d'un principe très simple. On a tous un peu, au cours de notre enfance, appris l'alphabet sur une mélodie. Mm-hmm. On a appris nos tables de multiplication sur des rythmes. Oui. Et on voulait justement mettre en perspective quel est l'impact de ces composantes musicales-là, de la mélodie, du rythme, du timbre, comment ça peut influencer les apprentissages scolaires. Donc, le laboratoire a vraiment une dimension qui est très pédagogique, celle de vraiment démontrer l'utilisation de la musique en classe et comment elle peut soutenir, en fait, la réussite scolaire des élèves.
En tout cas, chose certaine, vos recherches sont importantes. Alors, comme vous disiez, on est vraiment au début des connaissances, mais en fait, ça se développe de plus en plus grâce à vous. Alors, vous êtes effectivement, je le rappelle, une sommité en la matière. Vous avez quand même un doctorat et post-doctorat en éducation musicale, encore une fois titulaire de la chaire du Canada en musique et apprentissage. Et vous avez aussi eu des distinctions, là, notamment membre de l'Ordre de l'excellence en éducation du Québec. Alors, vraiment, et puis en 2022 aussi, au Conseil supérieur de l'éducation du Québec. Alors, bravo, Jonathan.
Ben merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense que on est une grande équipe, on est toute une grande communauté de chercheurs qui permet de faire évoluer la science en éducation musicale. Puis je pense que c'est juste un avantage pour tous les jeunes élèves et les adolescents dans nos écoles de valoriser la musique dans le système scolaire. C'est extrêmement important.
Et ben bonne suite dans la suite des recherches là, finalement, ce que vous allez faire dans la prochaine année en France. Alors merci bien d'être venu nous en parler.
Merci.
Ça me fait plaisir. Je vous tiens au courant.
Ben oui, on se tient au courant certain. Absolument. On veut tout savoir.
Merci.
Au revoir.
Au revoir, je vous en prie.